C'était comme un pays de cocagne. À eux seuls, déjà les quartiers voisins de Saint-Jacques-de-la-Boucherie et de Saint-Eustache étaient un pays de cocagne. Dans les rues adjacentes de la rue Saint-Denis et de la rue Saint-Martin, les gens vivaient tellement serrés les uns contre les autres, les maisons étaient si étroitement pressées sur 5-6 étages, qu'on ne voyait pas le ciel et qu'en bas, au ras du sol, l'air stagnait comme dans les égouts humides et était saturé d'odeurs. Il s'y mêlait des odeurs d'hommes et de bêtes, des vapeurs de nourriture et de maladies, des relents d'eau et de pierre et de cendres et de cuir, de savon et de pain frais et d'œufs cuits dans le vinaigre, de nouilles et de cuivre jaune bien astiqués, de sauge et de bière et de larmes, de graisse, de paille humide et de paille sèche. Des milliers et des milliers d'odeurs formaient une bouillie invisible qui emplissait les profondes tranchées des rues et des ruelles et qui ne s'évaporait que rarement au-dessus des toits et jamais au niveau du sol. Les gens qui vivaient là ne sentaient plus rien de particulier dans cette bouillie, car enfin elle émanait d'eux et les avait imprégnés sans cesse. C'était l'air qu'ils respiraient et dont ils vivaient. C'était comme un vêtement chaud qu'on a porté longtemps et dont on ne sent plus l'odeur ni le contact sur sa peau. Mais Grenouille sentait comme pour la première fois. Il ne sentait pas seulement l'ensemble de ce mélange odorant. Il le disséquait analytiquement en ses éléments et ses particules les plus subtiles et les plus infimes. Son nez fin démêlait l'écheveau de ses vapeurs et de ses puanteurs et en tirait un par un les fils des odeurs fondamentales qu'on ne pouvait pas analyser plus avant. C'était pour lui un plaisir ineffable que de saisir ces fils et de les filer. Souvent, il s'arrêtait, adossé à une façade ou à côté à une encoignure sombre, les yeux clos, la bouche entrouverte et les narines dilatées, immobiles comme un poisson carnassier, dans un grand courant d'eau sombre et lente. Et quand enfin une bouffée d'air qui passait amenait à sa portée l'extrémité du fil ténu d'une odeur, alors il fonçait dessus et ne le lâchait plus, ne sentant plus dès lors que cette unique odeur, l'agrippant, l'absorbant pour la conserver à tout jamais. Il pouvait s'agir d'une vieille odeur déjà bien connue ou de l'une de ses variantes, mais ce qui pouvait être aussi une odeur toute nouvelle qui n'avait guère ou pas du tout de ressemblance avec ce qu'il avait jusque-là senti et encore moins avec ce qu'il avait vu. Par exemple, l'odeur d'une soie qu'on repasse au fer, l'odeur d'une tisane de serpolet, l'odeur d'un coupon d'étoffe broché d'argent, l'odeur d'un bouchon qui avait fermé une bouteille d'un vin rare, l'odeur d'un peigne d'écaille. Telles étaient les odeurs, encore inconnues de lui, que Grenouille guettait, embusquées avec la passion et la patience d'un pêcheur à la ligne, afin d'en faire en lui-même la collection. Lorsqu'il s'était imprégné à satiété de cette épaisse bouillie des rues, il gagnait des territoires plus aérés, où les odeurs étaient plus ténues, où elles se mêlaient au vent et s'épanouissaient presque comme un parfum. Ainsi, de la place des Halles, où la journée, le soir tombé, se survivait encore dans les odeurs comme si la cohue des marchands y grouillait encore et que s'y trouvaient toujours les paniers pleins à craquer de légumes et d'œufs, les tonneaux emplis de vin et de vinaigre, les sacs d'épices, de pommes de terre et de farine, les caisses avec clous et vis, les étals de viande, les étalages de tissus, de vaisselle ou de semelles, de chaussures et de mille autres choses qui se vendaient là dans la journée. Toute cette activité était présente jusqu'au moindre détail dans l'air qu'elle avait laissé derrière elle. Grenouille voyait tout le marché par l'odorat, si l'on peut dire. Et il le sentait avec plus de précision que beaucoup n'auraient pu le voir, car il le percevait, et par conséquent, de manière plus intense. Comme la quintessence, l'esprit de ce qui avait été, débarrassé des attributs importuns de la présence ordinaire, tels que le vacarme, la bigarrure criarde et l'écœurante promiscuité d'être de chair et d'os. Ou bien il allait à l'endroit où on avait décapité sa mère, sur la place de Grève, qui s'avançait dans le fleuve comme une grosse langue. Il y avait là des bateaux tirés sur la rive ou amarrés à des pieux, sentant le charbon et le grain et le foin et les cordages mouillés. En venant de l'ouest, par cette unique coulée que traçait le fleuve à travers la ville, un large flux de vent amenait les odeurs de la campagne, des prés autour de Neuilly, des forêts entre Saint-Germain et Versailles, de villes lointaines comme Rouen et Caen, et même parfois de la mer. La mer sentait comme une voile gonflée, où se prenaient l'eau, le sel et le soleil froid. Elle avait une odeur toute bête, la mer, mais c'était en même temps une grande odeur et unique en son genre, si bien que Grenouille hésitait à la scinder en odeurs de poisson, de sel, d'eau, de varech, de fraîcheur et autres. Il aimait mieux laisser entière l'odeur de la mer, la conserver tout d'une pièce dans sa mémoire et en jouir sans partage. L'odeur de la mer lui plaisait tant qu'il souhaitait la voir un jour dans toute sa pureté et en quantité telle qu'il puisse s'en saouler. Et plus tard, quand il apprit par des récits combien la mer était grande et qu'on pouvait voyager dessus pendant des jours sur des bateaux sans voir la terre, rien ne le séduisit tant que de s'imaginer sur l'un de ces bateaux, perché à la cime d'un mât de misaine et voguant à travers l'odeur infinie de la mer, qui de fait n'était nullement une odeur, mais un souffle, une expiration, la fin de toutes les odeurs, et dans ce souffle il rêvait de se dissoudre de plaisir. Mais il était dit que cela n'arriverait jamais, car Grenouille, qui se plantait sur la place de Grève et plus d'une fois inspirait, expirait une bribe de vent marin qui lui était venue aux narines, ne verrait jamais de sa vie la mer, la vraie mer, le grand océan qui s'étendait à l'ouest, et jamais il ne pourrait se mêler à cette odeur. Le quartier situé entre Saint-Eustache et l'hôtel de ville fut bientôt si familier à son odorat et avec une telle précision qu'il s'y retrouvait sans peine aucune par la nuit la plus noire. Ainsi étendit-il son terrain de chasse d'abord vers l'ouest jusqu'au faubourg Saint-Honoré, puis en remontant la rue Saint-Antoine jusqu'à la Bastille et finalement en passant le fleuve pour gagner le quartier de la Sorbonne et le faubourg Saint-Germain où demeuraient les gens riches. À travers les grilles de fer des entrées cochères, cela sentait le cuir des carrosses et la poudre des perruques des pages. Et par-dessus leurs grands murs, les jardins exhalaient le parfum des buis et des rosiers et des troènes fraîchement taillées. C'est là aussi que, pour la première fois, Grenouille sentit des parfums, au sens propre du terme. Les simples eaux de lavande ou de rose qu'on mêlait à l'eau des fontaines lorsqu'on donnait des fêtes dans ces jardins, mais aussi des senteurs plus complexes et plus précieuses, musc mélangé à l'huile de néroli et de tubéreuse, jonquille, jasmin ou cannelle qui flottait le soir comme un lourd ruban à la suite des équipages. Il enregistrait ces senteurs comme il enregistrait les odeurs profanes avec curiosité, mais sans admiration particulière. Certes, il notait que l'intention des parfums était de produire un effet enivrant et séduisant, et il reconnaissait la qualité de chaque essence qui entrait dans leur composition. Mais en somme, il lui semblait tout de même plutôt grossier et lourdeau, amalgamé au petit bonheur plutôt que composé. Il savait pouvoir fabriquer de tout autre senteur, si seulement il pouvait disposer des mêmes substances. Beaucoup de ces substances, il les connaissait déjà, grâce aux marchands de fleurs et d'épices du marché. D'autres lui étaient inconnus, il les filtrait pour les extraire des bouquets d'odeurs. Et il les conservait sans nom dans sa mémoire. Ambre, civette, patchouli, santal, bergamote, vétiver, opopanax, benjoin, fleur de houblon, castoreum. Il ne se montrait pas difficile dans ses choix. Entre ce qu'on désigne couramment comme une bonne ou une mauvaise odeur, il ne faisait pas la distinction, pas encore. Il était goulu. L'objet de ses chasses, c'était tout simplement de s'approprier tout ce que le monde pouvait offrir d'odeur. Et il y mettait comme seule condition que les odeurs fussent nouvelles. L'odeur d'un cheval écumant de sueur avait pour lui autant de prix que le délicat parfum vert de boutons de rose qui se gonfle. La puanteur âcre d'une punaise ne valait pas moins que les effluves d'un rôti de veau farci, embaumant depuis les cuisines de quelques notables. Tout, il dévorait tout, il absorbait tout, même dans la cuisine olfactive de son imagination créatrice et synthétisante, où il composait sans cesse de nouvelles combinaisons odorantes. Aucun principe esthétique ne prévalait encore. C'était des bizarreries qu'il créait pour les démonter aussitôt, comme un enfant qui joue avec des cubes, inventif et destructeur, et apparemment sans principe créateur. Jean-Baptiste Grenouille rencontrera plus tard le parfumeur Baldini qui tient boutique sur le pont au change. Et Baldini en avait des milliers. Son assortiment allait des essences absolues, huiles florales, teintures, extraits, décoctions, baumes, résines et autres drogues sous forme sèche, liquide ou cireuse, en passant par toutes sortes de pommades, pâtes, poudres, savons, crèmes, sachets, bandolines, brillantines, fixatifs pour moustaches, gouttes contre les verrues et petits emplâtres de beauté, jusqu'aux eaux de bain, aux lotions, aux sels volatiles et aux vinaigres de toilette, et enfin à un nombre infini de parfums proprement dits. Pourtant, Baldini ne s'en tenait pas à ses produits de cosmétiques classiques. Son ambition était de réunir dans sa boutique tout ce qui sentait d'une façon ou d'une autre, ou bien avait quelque rapport avec l'odorat. C'est ainsi qu'on trouvait chez lui tout ce qu'on pouvait faire se consumer lentement, bougies, plaquettes et rubans odorants, mais aussi la collection complète des épices, des grains d'anis à l'écorce de cannelle, des sirops, des liqueurs et des eaux de vie de fruits, des vins de Chypre, de Malaga et de Corinthe, des miels, des cafés, des thés, des fruits secs et confits, des figues, des bonbons, des chocolats, des marrons glacés, et même des capres, des cornichons et des oignons au vinaigre et du thon mariné. Et puis aussi de la cire à cacheter odorante, des papiers à lettres parfumés, de l'encre d'amour à l'huile de rose, des écritoires en maroquin, des porte-plumes en bois de santal blanc, des petites boîtes et des coffrets en bois de cèdre, des pots pourris et des coupes pour mettre des pétales de fleurs, des porte-encens de cuivre jaune, des coupelles et des flacons de cristal avec des bouchons taillés dans de l'ambre, des gants parfumés, des mouchoirs, des coussinets de couture bourrés de fleurs de muscadet, et des tentures imprégnées de musc à parfumer des chambres pendant plus de 100 ans. Ainsi, Jean-Baptiste Grenouille deviendra un nez fabuleux qui enregistre toutes les odeurs du monde. Mais le parfum est aussi l'histoire d'un meurtrier.